Bonjour et bienvenue sur Fréquence Mistral d'Ine-les-Bains 99.3. Nous sommes l'émission IU Talk de l'IUT de Tine-les-Bains et nous allons vous présenter aujourd'hui 4 émissions de 45 minutes. Donc notre premier groupe vous présentera des randonnées autour de Tine-les-Bains et l'émission démarrera après cette première musique d'introduction. Voilà, sur cette courte introduction de la BO du film Belle et Sébastien, interprété par Zaz. Donc, notre première rando sera la rando au lac d'Alos. Donc, c'est une rando qu'on a eu la chance d'effectuer avec nos cours de biologie végétale, notamment pour étudier la flore de montagne et ses caractéristiques, ses adaptations, ses conditions de vie. Donc cette rando au lac d'Alos se déroule dans l'un des 10 parcs nationaux de France, le parc du Mercantour, créé en 1979. Au sein de celui-ci, il est évidemment interdit de sortir des sentiers battus, de récolter des plantes, de bivouaquer, car ce territoire est très important à préserver pour sa biodiversité unique et le lieu culturel de haute importance qu'il est pour la région. Donc c'est une petite boucle de 7 km autour du lac d'Alos, en partant du parking en contrebas, avec 300 mètres de dénivelé. Donc, au cours de cette randonnée, vous pourrez voir plusieurs étages de végétation. Donc, au départ, vous serez à 2100 mètres d'altitude. Vous serez donc à l'étage subalpin en Ubac. Et à l'arrivée, vous arriverez au lac d'Alos à 2225 mètres d'altitude, à l'étage alpin. Mais, Juliette, pouvez-vous nous présenter ce que l'on pourra voir comme curiosité végétale pendant cette randonnée?
Oui, alors bonjour à tous. Donc, dans le cadre de notre formation, en effet, nous avons pu étudier de nombreux végétaux et la sortie au lac d'Alos nous a permis de les voir concrètement. Donc déjà dans l'étage subalpin à 1800 mètres d'altitude en Ubac, vous pourrez observer le lys martagon, qui est une lilacée, qui est une espèce endémique du parc du Mercantour et qui fleurit début juin. Elle est reconnaissable par ses fleurs pourpres en grappes, qui sont vraiment très belles, mais qu'il ne faut surtout pas cueillir, bien sûr, puisque c'est une espèce très protégée. Ensuite, vous pourrez également trouver le troll des Alpes, qui est une renoncule, qui est une fleur jaune, qui fleurit en début mai. Et donc, vous pourrez la retrouver également dans ce milieu humide. Donc, ensuite, dans l'étage alpin, à 2400 mètres d'altitude, donc au niveau du lac, on retrouve plusieurs espèces végétales comme le rhododendron, qui est un petit buisson qui fait des fleurs roses. Et c'est une espèce caméphyte, donc en effet, c'est-à-dire que ces bourgeons qui poussent au-dessus, enfin qui poussent l'hiver, enfin qui poussent pardon, au printemps. Les bourgeons qui poussent meurent à l'hiver s'ils sont en dessous du niveau de la neige. Donc, c'est-à-dire que cette espèce nous permet d'observer le niveau moyen de neige l'hiver. Ensuite, le myosotis est une espèce que vous pourrez aussi retrouver au lac d'Alos. Donc, c'est une espèce qui, en basse altitude, est de couleur bleue, mais en haute altitude, elle se retrouvera à être bicolore, c'est-à-dire bleu et pourpre, pour attirer le maximum de pollinisateurs qui se font de plus en plus rares à cette altitude. Et si vous y allez en juin, vous pourrez également observer un tapis blanc de fleurs formées par les renoncules alpines. C'est une espèce qui réalise en effet la floraison groupée. Donc en fait, c'est-à-dire que toutes les fleurs vont fleurir en même temps afin d'attirer à nouveau tous les pollinisateurs qui se font rares. Donc pour conclure, la meilleure période pour se rendre dans cette randonnée est entre mai et septembre pour observer toutes ces espèces.
Merci beaucoup pour cette belle présentation des plantes que l'on peut voir à Alos et qui donne bien envie d'y aller. En revanche, j'aimerais bien revenir sur deux termes qu'on n'a pas pensé à expliquer, qui sont le terme d'adret et d'ubac. Est-ce que Clémentine, vous pourriez nous faire un point là-dessus ?
Oui, en effet, il faut savoir que l'adret, c'est le versant de la montagne le plus ensoleillé, donc souvent le plus sec, qui s'oppose à l'ubac, versant de la montagne le moins ensoleillé, donc souvent le plus humide et frais. Je vais également revenir sur les différents étages de végétation dont on a parlé. Il faut savoir qu'il en existe 5 différents, le collinéen, le montagnard, le subalpin, l'alpin et le nival. Il faut aussi prendre en compte le fait que l'adret et l'ubac font varier la limite de ces étages de végétation. L'ubac étant plus humide et plus frais, les limites de cette végétation seront donc plus basses d'environ 200 mètres par rapport à l'adret. Je vais donc revenir plus précisément sur l'étage subalpin et alpin dont on a parlé. Il faut savoir que l'étage subalpin se situe entre 1600 mètres et 2300 mètres. Et donc, dans cet étage, nous retrouverons davantage de forêts de résineux. À l'étage alpin, qui se situe entre 2300 mètres et 2900 mètres, on retrouvera davantage de pelouses rases. C'est également à cet étage qu'on va pouvoir rencontrer la zone de combat. La zone de combat étant une zone dans laquelle on retrouve très peu d'arbres, puisque les arbres résistent mal aux conditions climatiques. Donc on retrouvera davantage de petits buissons et de pelouses rases qui sont davantage adaptés à ces conditions. Et enfin, quand on se trouve au niveau du lac, on peut apercevoir l'étage nival, qui est le dernier étage que l'on peut observer en montagne. C'est l'étage le plus froid avec les neiges éternelles.
Merci beaucoup pour cette présentation technique et du vocabulaire de la montagne. Et est-ce qu'on pourra observer des animaux, Tiffaine, durant cette randonnée ?
Eh oui, bonjour à tous. Donc, durant cette randonnée, on pourra croiser des animaux autant que des végétaux. Alors, celui que vous croiserez le plus, bien sûr, c'est les marmottes. Elles fonctionnent en colonie, donc avec une marmotte qui va faire le guet pour prévenir les autres d'un danger. Donc le danger qui arrive le plus souvent, c'est les hommes ou les rapaces. Donc quand elles vous verront, elles vous siffleront dessus, parce que pour elles, vous êtes un potentiel prédateur. Les marmottes, alors elles ont un mode de vie très particulier, car elles hibernent pendant 6 mois de l'année. Donc pour réaliser cet exploit, plusieurs mécanismes sont mis en place. D'abord, on va avoir une accumulation de graisse brune pendant l'été, donc les marmottes vont beaucoup manger pour accumuler de la graisse pour que ça les tienne chaud. Leur température de leur corps, qui est initialement à 37 degrés, va chuter à 5 degrés. Leur fréquence cardiaque va diminuer, elles n'en feront plus qu'une par minute. Et enfin, elles vont uriner toutes les 3 semaines. Attention à ne pas leur donner de la nourriture, car ceci peut les rendre malades, car ce n'est pas de la nourriture qu'elles trouvent dans leur milieu naturel, donc elles n'ont pas l'habitude de le manger. Vous ne les verrez pas, mais il y en a. Ce sont les tétralyres. C'est une espèce parapluie. Donc une espèce parapluie, c'est une espèce que quand on la protège, on protège les espèces qui sont sous elle, donc qui en découlent d'elle. Donc le tétralyre, c'est une espèce de poule. C'est une poule oiseau sédentaire. Donc en hiver, il va vivre sous la neige pour se protéger du froid, car la neige est une couche isolante. Pour se reproduire, il va effectuer une parade. Donc en hiver, il est blanc pour se confondre avec la neige. Et enfin, en été, pour la protection, il va prendre une couleur noire. Vous pourriez aussi voir des bouquetins des Alpes, des chamois ou encore des mouflons dans les pierriers.
Mais est-ce qu'on verra aussi des oiseaux dans cette belle randonnée ?
Ah bah oui, forcément, je pense que vous verrez des faucons pèlerins, donc on peut les reconnaître avec leur plumage tacheté. C'est l'oiseau le plus rapide du monde, il se nourrit de petits oiseaux et donne naissance à 3 petits par an. Donc pour les observer, le mieux c'est au mois de juin. Vous pourrez aussi, j'y pense, retrouver des insectes pour ceux qui ont des bons yeux, comme le carabe d'or de Provence avec une robe métallique qui se trouve souvent dans les prairies ou les pâturages. Et petite info, il consomme des limaces et des escargots. Enfin, vous pourrez aussi voir des salamandres tachetées avec un corps huileux et des taches de jaune du coup. Sachant que ce petit animal peut vivre jusqu'à 20 ans et peut régénérer des parties de son corps blessé.
Merci beaucoup à vous trois pour cette belle présentation du lac d'Alos. On note aussi que le lac d'Alos est le plus grand lac naturel d'altitude en Europe, qui culmine à 2228 mètres d'altitude. Et ceci fait qu'il abrite la truite fario et l'omble chevalier dans ses eaux. Le lac d'Alos était aussi bien connu d'Alexandra David-Nel, une grande exploratrice de Digne qui aimait y faire du bivouac. Exploratrice de Digne, elle a fait de nombreux voyages au Tibet, ce qui lui fait sa renommée. Et cela fait une belle transition pour notre prochaine balade, plus proche du pays dinois, aux gorges de Trévent. Avant ceci, une petite interlude musicale avec Jean Ferrat.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver? Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortir. Les filles veulent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime et rentrer dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelle, que l'automne vient d'arriver?
Merci à Jean Ferrat pour cette belle éloge de la montagne. Vous êtes toujours sur Fréquence Mistral, Digne-les-Bains 99.3, dans l'émission EU Talk. Notre deuxième randonnée portera sur les gorges de Trévent, comme dit précédemment, accessible par Estoublon à 30 km au sud de Digne. Cette petite balade de 8 km avec 350 mètres de dénivelé vous plongera au cœur de la réserve naturelle géologique de Haute-Provence, qui est aussi classée site Natura 2000. Ces gorges de 200 mètres ont été creusées par l'Estoublaise et vous pourrez y voir le vieux hameau de Valbonnette.
Alors les gorges de Trévent sont remarquables pour leur biodiversité, mais aussi pour leur géologie. Alors c'est pas le point qu'on préfère, mais ceci est très important, parce qu'au départ de la balade, vous observerez deux types de roches qui se chevauchent. Donc au-dessus, on observe des roches blanches calcaires qui datent du Jurassique supérieur, donc de moins 154 à moins 135 millions d'années. Et en dessous, on observe une roche orangée composée de galets qui date du Miocène supérieur, donc au Pliocène terminal, de moins 11,6 à 5,3 millions d'années. Ces deux couches sont donc superposées anormalement avec une couche ancienne par-dessus une couche récente. Cette superposition anormale va créer les gorges de Trévent. Ces gorges de Trévent sont le début des Alpes, donc c'est vraiment le tout début, là où vraiment les Alpes commencent, c'est les Alpes du Sud.
Merci pour ce point géologique. Donc voilà, les gorges de Trévent, comme dit, le tout début des Alpes. Et justement, à la naissance des Alpes, Juliette, qu'est-ce que l'on peut voir comme espèce végétale ?
Alors, déjà, au niveau de la végétation, on s'intéresse à celle qui est autour de l'Estoublaise, donc cette rivière, en effet, autour de laquelle on peut voir la ripisylve. La ripisylve, c'est en effet la forêt qui borde de part et d'autre un cours d'eau. Et ici, aux gorges de Trévent, vous pourrez observer des espèces bio-indicatrices de ce milieu, telles que l'aulne glutineux, le saule blanc ou le peuplier noir. Et déjà, qu'est-ce qu'une espèce bio-indicatrice ? C'est une espèce végétale, et dans ce cas, qui, par sa présence, nous renseigne sur le milieu dans lequel elle pousse. Ainsi, les trois arbres que j'ai cités précédemment ne peuvent pas pousser s'il n'y a pas présence de beaucoup d'eau. Et vous pourrez également retrouver l'alisier blanc, qui est aussi une espèce facile à observer, car en dessous de ses feuilles, elle a une couleur très très blanche. Voilà, et vous pourrez retrouver toutes sortes d'autres espèces, comme par exemple le sumac ou l'arbre à perruque, qui forme par ses graines une touffe qui fait penser à des perruques, justement, et plein d'autres curiosités végétales.
Voilà encore une présentation qui donne bien envie de se balader dans le coin. Clémentine, est-ce que on trouvera des animaux typiques de là-bas, aux gorges ?
Alors, il y a des animaux plus faciles à retrouver que d'autres. Par exemple, si vous observez un sol retourné, il y a de grandes chances que ce soit dû à des sangliers. Si vous trouvez par terre des traces dans le sol avec deux onglons, ça peut être indication de présence de biches, chevreuils ou chamois. Dans le cas du loup, que vous pouvez retrouver dans ces gorges. Vous retrouverez plus souvent des poils ou des excréments. Cependant, afin de différencier les traces du loup d'un chien, il faut savoir que le loup met systématiquement ses pattes arrière dans les traces de ses pattes avant.
Et c'est d'ailleurs ce fonctionnement qui a donné l'expression à la queue leu-leu, car dans le nord de la France, on appelle le loup leu-leu, L-E-U-X. Et donc c'est cette façon de se déplacer qui a donné cette expression.
De plus, on sait que dans ces gorges, il y a 40 espèces d'oiseaux qui y sont répertoriées. Afin d'éviter de déranger cette faune sauvage unique, il faut bien évidemment tenir les chiens en laisse, c'est ce qui est préconisé lorsqu'on se rend sur le site de la balade. Toutes les espèces entretiennent des relations entre elles et forment un écosystème complexe. Par exemple, le pinsombreau avec l'oiseau casse-noix moucheté, qui réalise du mutualisme, c'est-à-dire qu'ils ont besoin l'un de l'autre afin d'assurer leur survie. En effet, cet oiseau est le seul à se nourrir des graines de ce pin. Lorsqu'il consomme ces graines ou qu'il les cache afin d'effectuer des réserves l'hiver, il dissémine ces graines, ce qui serait impossible sans lui. Les graines étant très lourdes et tombent simplement au pied de l'arbre, ce qui empêche la dissémination de ce pin.
Au niveau végétal, également, j'ai omis de dire quelques petites choses en plus. Donc, il faut savoir que, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'adret, donc en zone plus ensoleillée et plus chaude, les espèces végétales s'adaptent et donc ont des feuilles, par exemple, plus petites et plus fines pour perdre le moins d'eau possible. Et donc, vous pourrez retrouver notamment de la lavande sauvage ou bien du thym. Aussi sauvage dans ces zones plus chaudes. Et voilà, c'est ce que
Mais Juliette, la lavande, c'est la même qu'on trouve dans nos prairies et dans nos champs ?
La lavande sauvage ?
Oui.
Non, c'est pas celle que vous trouverez sur le plateau de Valensole. C'est une espèce totalement sauvage. Sur le plateau de Valensole, par contre, vous pouvez retrouver le lavandin, qui est un hybride entre deux types de lavande.
D'accord, merci. Voilà. Moi, je voulais ajouter sur cette randonnée qu'en plein été, vous pourriez vous baigner, ce qui est très agréable après avoir bien randonné. Il y a un spot très sympa à la fin de la randonnée, enfin donc au début et à la fin, parce que les gorges, vous faites un aller-retour. Mais pour vous rafraîchir, c'est toujours très agréable.
Donc voilà, comme dit précédemment, ces gorges de Trévent, une balade familiale qui est très agréable à faire à toute saison. On y observe une végétation qui se change à chaque saison et c'est là l'intérêt aussi de faire ces randonnées dont on vous parle en été, en automne, en hiver, au printemps. C'est à chaque fois un renouveau. On note aussi que justement pour cette balade aux gorges de Trévent, on peut facilement, pour les personnes à mobilité réduite, y emmener une joëlette. On vous parle de ça parce qu'on a déjà expérimenté cela grâce à l'IUT. Et donc c'est une balade très familiale où on voit très fréquemment des familles, un spot reconnu des randonneurs du dimanche. Merci.
Qu'est-ce qu'une joëlette ? En fait.
Et ben, une joëlette, en fait, c'est un système sur une seule roue pour transporter les personnes, comme je le disais, à mobilité réduite, pour leur permettre aussi de voir le grand air et les beautés de notre région et les super balades qu'on peut effectuer.
Et du coup, il nous faut quelqu'un qui va pousser la joëlette ?
Oui, c'est un peu la chose entre guillemets contraignante, c'est qu'il faut quand même avoir une certaine aptitude physique pour transporter cette joëlette, et il faut que les chemins soient quand même assez praticables.
Mais de ce que je sais, pour la randonnée aux gorges de Trévent, ça se passe plutôt bien. Il faut juste ne pas avoir peur de... Celui qui est dans la joëlette ne doit pas avoir peur.
Oui, et c'est vraiment une très belle randonnée. On l'avait pu la faire au mois de décembre, et il y avait eu... On s'en souvient de la neige au point le plus haut. Merci à vous trois pour cette belle présentation des gorges de Trévent, de l'Estoublaise, et maintenant une musique justement en lien avec la rivière de l'Estoublaise.
Retiens ton souffle si tu peux. Ne t'arrête pas, ferme les yeux. Il te faudra parfois te cacher. Souviens-toi toujours, si tout ça c'est trop lourd, à porter, retrouve-moi à l'arrière. J'ai ramassé les plus belles pierres, envole-toi.
Sur cette jolie chanson de Pomme intitulée La Rivière. On se permet de revenir sur le sujet de la Joëlette. La Joëlette, on a une animatrice qui justement bénéficie de cette installation et elle voulait vous parler de son ressenti.
Oui, en effet, la Joëlette, c'est quelque chose qui permet vraiment de pouvoir profiter des randonnées et du paysage tout en passant outre certaines difficultés que peuvent avoir les personnes. Donc c'est vraiment quelque chose qui est chouette et dont on peut profiter. Et il y a des associations ici dans la région qui permettent, qui proposent la location ou de pouvoir bénéficier de randonnées encadrées. D'avoir la chance de pouvoir découvrir le paysage et les magnifiques randonnées qu'il y a ici.
Et si je peux me permettre, ça peut créer un lien aussi fort avec les personnes qui vous aident.
Effectivement, puisque il y a deux personnes qui s'occupent donc de la Joëlette, une personne qui tire et une personne à l'arrière qui pousse et qui gère la direction de cette Joëlette. Et en effet, il faut déjà avoir confiance en les personnes et puis ça permet d'échanger, d'avoir des discussions tout en profitant d'un cadre qui est magnifique. Donc, donc.
Et même de rigoler un peu.
Effectivement, c'est parfois de drôles de situations qui permettent aussi d'avoir d'excellents souvenirs.
Voilà, merci pour cette belle aparté sur les Joëlettes. On est toujours sur Fréquence Mistral d'Ine-les-Bains 99.3 sur l'émission EU Talk. Donc notre troisième et dernière randonnée se déroule tout près de Ine-les-Bains à la Barre des Dourbes. Donc on vous a préparé un itinéraire de 10 km avec 640 mètres de dénivelé et on peut vous en parler par expérience qu'il se fait idéalement au coucher du soleil. C'est une rando magnifique qu'on a eu l'occasion de faire plusieurs fois. Est-ce que Juliette, vous pourriez nous parler justement de cette belle rando?
Oui, en effet. Bah, déjà, je vais vous parler de la géologie de cet endroit, puisque la Barre des Dourbes est un lieu atypique, car c'est une des plus grandes barres rocheuses d'Europe pour une longueur de 17 km. Et elle a une histoire particulière, puisque entre décembre 2002 et mai 2003, après une période très pluvieuse, s'est produit un glissement de terrain de très grande ampleur au pied de la Barre des Dourbes. Donc, il s'est produit un glissement d'une ampleur de 3 km de long sur 250 à 300 mètres de large. Ce sont environ 70 hectares de terrain qui ont été mis en mouvement sur une profondeur de 10 à 20 mètres. Donc, si on se rend bien compte, c'est des millions de mètres cubes de matériaux qui ont été déplacés avec des vitesses enregistrées pouvant atteindre jusqu'à environ 10 mètres par jour. Donc, c'est vraiment gigantesque. Mais maintenant, ne vous inquiétez pas, tout est remis en ordre, il n'y a plus de soucis, il y a même une route qui vous amène jusqu'au point de départ de la randonnée. Et du point de vue géologique, vous pourrez aussi trouver le trou de Saint-Martin le long de la Barre des Dourbes. Donc il s'agit d'un trou creusé naturellement dans la roche. Et la légende, c'est que le jour de la Saint-Martin et de la Sainte-Martine, respectivement du coup le 11 novembre ainsi que le 30 janvier, un rayon de soleil levant passe au travers du trou pour une vision du phénomène lunaire. Et donc ça attire la curiosité de nombreux photographes qui se rendent du coup dans ce lieu pour prendre leurs meilleurs clichés.
Et est-ce que toi, Juliette, tu as eu l'occasion de le voir, ce rayon de soleil?
Non, malheureusement non, mais nous nous sommes déjà rendus au niveau du trou de Saint-Martin, qui est vraiment impressionnant à voir réellement. Mais si cela peut se produire, pourquoi pas?
Très bien.
On voit les paroles d'amateurs de photographie qui aiment les belles choses. En parlant de curiosité, est-ce que Clémentine, pourriez nous parler des plantes présentes à la Barre des Tourbes?
Oui, en effet, les plantes ont inventé des adaptations particulières pour pouvoir s'adapter à ces altitudes. Tout d'abord, il faut savoir que les plantes ont plutôt tendance à être naines, à faire du nanisme, puisqu'il s'agit d'une forme de protection que les plantes de montagne ont développée pour résister aux conditions climatiques difficiles de leur environnement. Cela leur permet de résister à l'action néfaste du vent et d'être plus près du sol et donc de sa chaleur. Il faut aussi savoir, comme l'a dit plus tôt Juliette, qu'on peut déterminer le niveau de neige minimal moyen grâce à certaines plantes, comme le myrtillier ou le groseiller amacro, puisque ce sont des plantes qui réalisent leurs bourgeons en dessous du niveau de neige pour les protéger durant l'hiver, puisque, comme l'a pu le dire Tiffaine, la neige est un excellent isolant. On peut voir d'autres adaptations, comme la gentiane, qui est une fleur très très bleue, qui permet tout d'abord d'attirer les pollinisateurs, qui sont rares, on en a déjà parlé, en montagne, et qui réalise aussi une protection contre les UV, tout comme la véronique alpine. On a également l'androsacée, qui est une plante qui réalise des feuilles qu'on dit porc en coussin, afin de garder sa chaleur et donc de survivre pendant l'hiver. Il y a également le saule alpin, qui est un arbre, mais un arbre souterrain, qui, comme les autres plantes, lui permet de survivre l'hiver, puisque le sol est également un excellent isolant. Et ensuite, il y a l'edelweiss, qui est une plante poilue. Son duvet argenté lui permet de réfléchir la lumière du soleil, et ainsi protéger ses fleurs du dessèchement. Et je peux également rajouter la joubarbe, qui est une plante crassulescente, donc plante grasse, pardon, qui stocke du sucre dans ses feuilles afin de résister au froid de l'hiver. En effet, le sucre étant un excellent antigel.
Oui, c'est des très bonnes explications. Et si je peux me permettre, il y a aussi la linéaire alpine qui a le même effet que la joubarbe, c'est-à-dire qu'elle elle stocke aussi du sucre dans ses feuilles. Mais vous ne pourrez pas l'observer à la barre des dours parce que c'est un peu trop bas en altitude. Mais comme on en a parlé juste avant, au lac d'Alos, par contre, vous pourrez facilement l'observer à de telles altitudes.
Il n'y a que moi que ça a choqué qu'on ait parlé de groseillers à macro. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est ?
Alors, je peux vous le dire si vous voulez. Le groseillier à macro, c'est une espèce de petit buisson piquant qui produit des groseilles comme celles qu'on a dans nos jardins, qui sont nettement plus grosses en revanche et qui sont notamment utilisées pour des recettes avec du macro, vous l'aurez deviné.
Le macro, le poisson ?
Oui.
Ok, exact. Parfait. Ça donne faim, tout ça.
Bah oui.
Après avoir gravi la barre des Dourbes, vous allez la longer par le dessus. Donc c'est une boucle. En partant des Dourbes, vous allez la gravir et après longer au-dessus de la, donc au-dessus. Et vous allez pouvoir y observer du nard. C'est une plante qui montre la présence du pastoralisme.
Mais qu'est-ce que c'est le pastoralisme ?
Alors le pastoralisme, merci Sacha, c'est le fait de mener des troupeaux sur des parcours, en montagne ou encore dans des landes. Dans notre région, pardon, les troupeaux montent à l'estive pendant que les fourrages sont réalisés dans la vallée et peuvent même libérer du temps libre à l'agriculteur. Donc ce sont des techniques qui sont réalisées depuis très très longtemps. Le pastoralisme, donc, ça engendre des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc négative, c'est le fait quand les troupeaux sont laissés trop longtemps dans les prairies, les animaux vont piétiner et vont abîmer la biodiversité, mais également des conséquences positives comme le maintien des milieux ouverts. Par exemple, les brebis vont garder un milieu ouvert en évitant que tout devienne une forêt. Car il faut le savoir, on n'a jamais eu autant de forêts qu'en 2023. Des conséquences aussi sociales, les villages peu habités vont retrouver de la vie avec les bergers ou encore la transhumance.
Et est-ce qu'on pourrait parler brièvement du loup ?
Oui, le loup est un grand sujet, un grand débat. Il faudrait une émission de radio juste sur ce sujet. Deux grands avis sur ce sujet, ceux qui veulent absolument le protéger et ceux qui aimeraient qu'il soit limité en termes de population. La protection de cette espèce serait pour l'équilibre de la biodiversité, mais leur présence perturbe le fonctionnement du pastoralisme car ils vont attaquer les troupeaux et faire de nombreux dégâts. Certains me diront que les dégâts causés par ces animaux sont remboursés, mais pas toujours. De plus, c'est de l'argent qui est versé à l'éleveur juste pour une bête, mais on ne sait pas si... l'argent n'est pas versé pour une bête en gestation. Donc si elle est tuée, elle perdra, par exemple, pour une brebis, son agneau. Donc on aura des pertes en plus. Un loup qui attaque un troupeau, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est un stress énorme pour les autres brebis qui peuvent causer des avortements. Et c'est aussi un stress pour l'éleveur.
Voilà, vous l'aurez compris, un débat assez sensible sur le loup, avec de nombreux avis. Voilà pour la présentation de la randonnée autour de la barre des Dourbes. En revanche, un petit point sécurité avant de partir en rando s'impose selon moi. Est-ce que chacun de vous trois pourrait me dire un petit point technique qu'il effectue sans louper avant de partir en randonnée ?
Oui, en effet, tout d'abord, il faut bien regarder la météo et donc s'habiller en fonction, puisque les tenues sont quand même la base de randonnée réussite.
Bien sûr, comme deuxième point qu'il faut bien respecter, c'est de préparer l'itinéraire et de suivre le balisage prévu. Donc il faut préparer l'itinéraire, bien sûr, avant de partir et suivre le balisage, donc c'est-à-dire suivre les différentes indications, que ce soit des flèches jaunes souvent ou autres balisages selon la randonnée que vous effectuez. Et aussi pendant votre balade, vous ne pouvez pas... Il est mieux de ne pas couper les chemins pour éviter l'érosion des roches et aussi éviter les chutes de pierres qui peuvent être très dangereuses pour les personnes qui randonnent juste en dessous de vous.
Ça peut être fatal.
Oui.
Aussi, une autre règle très importante, c'est de prévenir une personne de notre itinéraire. Comme ça, on sait à quel moment on doit rentrer et à quel endroit exactement on va. Comme ça, si on n'est pas rentré à l'heure, la personne peut appeler les secours et prévenir de notre non-retour.
Et surtout, selon moi, la règle primordiale, on n'oublie jamais son bon bout de fromage, un saucisson et un bout de pain. Voilà, merci pour votre écoute et votre participation pour cette émission. Sans plus attendre, une dernière musique qui fait transition avec la prochaine émission sur les anecdotes croustillantes de films. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir, bonne journée.